Radio X. En direct du Festival d'été de Québec. Le retour de Radio X. En vacances. Radio X.
Mesdames, messieurs, voici Stéphane Monette.
Toujours le fun d'aller jaser avec Steph Monette qui est en direct de quelque part, j'imagine, plus d'Halifax comme la semaine dernière. Salut Steph, comment ça va?
Ça va super bien, vous autres?
Ben oui, yeah. T'es où là?
Là, j'ai breaké dans la vallée de la Matapédia. Parce que la pêche au saumon est excellente. Fait que j'ai booké malade pour les deux prochains jours. Puis j'ai arrêté pêcher il y a une couple de jours sur la rivière Matapédia.
En tout cas, tu m'as envoyé des photos un matin. C'est des maudites belles pièces que tu as récoltées dans ce coin-là.
Ouais, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, le saumon, il va pas bien. Tu sais, les populations de saumon, depuis les deux dernières années, étaient très, 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 très difficiles. Puis là, ben, on dirait qu'on commence à avoir une petite augmentation. En tout cas, présentement, la pêche est bonne. Elle est pas excellente, mais la pêche, elle est quand même bonne. Fait que ce matin, j'ai eu la chance de prendre un grand saumon. Puis après ça, tout de suite après, dans la même rivière, j'ai attrapé un bon rayé. Fait que on a du plaisir, okay, vraiment.
Puis si on recule la cassette un peu, qu'est-ce qui explique le fait qu'il y ait moins de saumon dans les rivières? C'est une histoire justement du bord rayé. Comment ça, on a eu ce problème de population-là? Puis là, ben au moins, c'est en train de réaugmenter. Fait que ça redevient un peu anormal.
Ben il faut pas penser que le saumon, il va bien, là. Okay. On le sait qu'on va le savoir. On va le savoir plus qu'au mois d'août, quand ils font les décomptes. Fin juillet, début août, là, ils sautent des rivières puis ils vont compter combien il y a de saumon. Mais non, les populations de saumon sont vraiment en baisse comparativement à il y a une quinzaine d'années. Mais il y a beaucoup de facteurs, là, tu sais, au-delà de la pêche commerciale, parce que on pense que les bateaux-usines ont ramassé dans les mers internationales beaucoup de génétiques de saumon de rivière directement. Fait que c'est pour ça que ça a baissé rapidement. Mais il y a aussi le fait que les températures changent, le phytoplancton change. En plus, une augmentation de la prédation pour le saumon dans le cas des loups marins, des phoques qu'on a dans le fleuve, le bord rayé, que tu sais, ils ont beau me dire, moi, sous le temps, une question de GBS, là, ils ont beau me dire que le bord rayé, il est pas si pire que ça, mais quand, tu sais, à matin, là, j'ai pogné un bord rayé d'à peu près 6 livres, 7 livres, c'est bon, là, ça mange des petits bébés saumons, ça, là, veut pas. Fait que tout ça mis ensemble, mais notre saumon, il en arrache un peu, là.
C'est-tu l'ennemi direct, le bord rayé? Parce que je regardais ça un peu un matin, puis ça peut être aussi niaiseux des fois que les poissons rouges qui sont jetés par les humains, bien sûr, qui causent ces affaires-là. Fait que là, tu viens comme tout débalancer l'écosystème des rivières, des lacs et compagnie.
Ben, tu sais, le bord rayé, il a été réintroduit par la FDCP, la Fédération des chasseurs et pêcheurs. Puis c'était correct parce qu'il avait complètement disparu, malgré que c'est un poisson qui peut devenir abondant. C'est un poisson qui est très, très, très fragile. Puis, mais là, on a très, très, très bien réussi la réintroduction d'un poisson qui avait disparu. Puis là, ben, on se demande jusqu'où qu'il va falloir enlever les restrictions pour justement l'enlever des rivières à saumon, l'enlever des embouchures de rivières. Tu sais, les pêcheurs de homards aussi se plaignent comme quoi que le bord rayé fait des dommages aux homards. Fait que, tu sais, je ne sais pas là, jusqu'où. Mais my God, ils sont tellement longs de sortir des rapports et des affaires qu'il faut y aller avec notre GBS. Fait que, tu sais, le GBS veut que s'il y a beaucoup de bords rayés dans une rivière, ben veut pas les tacons, les bébés saumons, ben ils mangent la claque, c'est automatique. Fait que là, ben, tu sais, il est hyper opportuniste, le bord, là. Tu sais, ça fait partie de la gamme des achigans. Fait que c'est vraiment un poisson qui est vorace, qui est opportuniste. Fait que ça peut être. En tout cas, c'est sûr que ça aide pas la cause des saumons, ça, c'est sûr et certain.
Je sais pas si tu as une explication pour ça. J'ai vu passer une vidéo là, où on montrait des saumons qui se littéralement déformaient là, dans le but de. En tout cas, ils tentaient comme de remonter la rivière. Puis là, ben, ils venaient qu'à ne plus se nourrir. Ils s'auto-mangeaient. Je sais pas trop, okay. Ils venaient qu'à développer. Est-ce que tu as entendu parler de ce phénomène-là? Ça te dit-tu quelque chose?
Ouais, c'est pas ici, ça. Parce okay. qu'il y a deux sortes de saumons. Nous, ici, au Québec, on a le saumon de l'Atlantique. OK?
Ah, c'est ce saumon-là, il vit.
Et voilà, il vit longtemps, le saumon de l'Atlantique. Le saumon de l'Atlantique, il vient de la rivière, il ressort, puis il peut vivre plusieurs années. Tandis que celui qui parle, c'est le saumon du Pacifique. Celui qu'on a sur la côte ouest. Où est-ce qu'une fois qu'il atteint sa maturité, il va monter dans la rivière, il va pondre ses œufs, il va faire jusqu'à la peur de la fraye, puis après ça, il va mourir. Il va complètement se dégrader. C'est des millions de saumons à tous les ans qui meurent dans les rivières parce que ça fait partie de leur cycle de vie à eux autres de faire ça. Puis ils sont là aussi, tu sais, il y a des raisons pourquoi ils meurent, là. Ça enrichit le sol, ça aide les oiseaux de proie à manger, toutes les espèces qui mangent le saumon, puis tu le quittes. Fait que non, c'est mais c'est pas la même espèce, c'est pas pareil du tout. On n'a pas ça, nous autres, ici, sur le côté de l'Atlantique.
OK.
Puis on parlait cet hiver, je me souviens, ben en fait, cet automne, avec la chasse à l'orignal, puis tu sais, patente-là, je me souviens de la vidéo que tu avais envoyée, je pense, à The Age, puis on avait regardé ça, nous autres, l'orignal qui se faisait tirer par des braconniers, des chasseurs qui n'avaient pas le droit de le chasser, tout simplement, puis on voyait la souffrance, puis je pense même que c'était une femelle qui se faisait tirer, c'était, en tout cas, c'était vraiment pas beau à voir.
Oui, absolument.
Est-ce qu'on voit ce phénomène-là de braconniers, de pêcheurs illégaux, est-ce que c'est un phénomène qui est répandu au Québec, parce qu'on pourrait parler de bien des problèmes dans bien des pays en Afrique, puis tout ça, on sait qu'il y a bien des braconniers, mais est-ce qu'au Québec, la pêche illégale, c'est un phénomène qui est quand même grandissant?
Malheureusement, oui. Je vais dire ça comme ça. Il y a tout le temps eu des braconniers. Puis le meilleur exemple, c'est ici, là, tu sais, ça revient à Matapédia. Il faut penser que, dans le temps, il y avait des gardiens quasiment à chaque fosse, hein, qui watchaient les saumons la nuit pour qu'il n'y ait personne qu'on disait venir les pocher, venir les prendre illégalement. Puis après ça, bien entendu, oui. Puis il y a des fosses, tu sais, il y a des grandes fosses où est-ce que c'est dur de pogner le saumon. Mais il y a d'autres fosses où est-ce qu'ils sont faciles à attraper. Puis, pour contrer ça, ben souvent, les pêcheurs, les associations de chasse et pêche, on va te parler de la rivière Matapédia, ben ils vont mettre des gros blocs de ciment dans le fond de la rivière. Fait que quand les gars se poignent un bord et l'autre, puis ils veulent passer avec un filet pour ramasser les saumons, ben les blocs de ciment font que ils sont pas capables de les attraper, parce que les saumons se cachent en arrière des blocs. Fait qu'ils passent par-dessus, ils sont moins vulnérables dans ce temps-là. Mais il y a aussi les filets qu'ils vont mettre aux embouchures pour attraper les saumons aussi quand ils montent. Mais oui, puis tu sais, je vais te dire, on travaille fort pour éduquer, puis tu sais, de faire comprendre aux gens que n'importe quelle ressource, que ce soit l'orignal, que ce soit le saumon ou la truite, peu importe, que c'est une ressource pour faire attention, braconner, c'est voler. Mais on voit une grosse augmentation du braconnage quand l'économie est difficile. Quand que les gens ont de la misère à se nourrir, ben là, on dirait que nos gènes de colons... tu sais, il ne faut pas oublier que nous autres, là, on est emmenés au Québec dans un bateau avec un mousquet et une poche de farine, puis on dit on va revenir te voir au printemps si tu vas avoir survécu, tu sais.
Avec un peu de scorbut, là, ouais.
Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, là, on le remarque, là, tu sais, là, que l'économie est plus difficile, les gens ont moins de sous. Fait que les gens, en tout temps, vont sauter dans le bois et vont essayer d'aller chercher de la viande.
Mais je pense, Steph, que c'est un phénomène qui va juste comme rester au fil du temps, là, parce que tu regardais, c'était des sondages, je sens qu'on avait regardé cet hiver, il semble que c'est avec toi qu'on en jasait justement, qu'à un moment donné, le monde, je veux dire, ils auront tellement plus de scène, puis on regarde ce qui se passe avec le détroit d'Ormuz, c'est pas loin d'être réglé, c'est pas fini en tout cas, puis on a la situation Ukraine-Russie, on sait que ça va augmenter le prix du blé, ces patentes-là. Qu'à un moment donné, il y a du monde qui vont faire leur chasse de leur bord, vont avoir leur jardin, puis on n'entendra pas parler, on va juste voir le nombre de bêtes diminuer.
Ben, depuis la COVID, tu sais, je vais te parler des femmes. Depuis la COVID, avant la COVID, on avait à peu près 15-18% de femmes qui allaient à la chasse. Maintenant, on est rendu à 35-38% de femmes qui vont à la chasse. Fait que, tu sais, là, on a une augmentation là-dedans. Puis, dans notre industrie, on ne fournit pas de donner des cours de chasse, des cours d'armes à feu. Fait que ça, c'est signe qu'il y a plein de monde qui veulent apprendre, qui veulent être légal, puis qui veulent aller profiter de cette activité-là. Mais oui, on a beau dire que il y en a beaucoup qui disent « Ah non, moi, je vais là rien que pour ça, puis je veux pas, c'est pas obligé de ramener de la viande. » Mais majoritairement, ceux qui rentrent dans le bois, c'est vraiment... Tu sais, tu vas rentrer, mettons, un 100 livres de chevreuil qui va arriver arrangé dans la maison, bien, m'aller à 25$ la livre, bien, c'est un 2500$ de viande que tu as dans le congélateur. Puis un orignal, c'est plus. Fait que, tu sais... C'est considérable. Malgré que c'est équipé pour la chasse, c'est un autre game aussi, ça coûte cher. Mais au-delà de ça, oui, de commencer, il y en a beaucoup là, qui sont rendus là à aller chercher la nourriture en forêt. Tu sais, pas penser qu'il n'y a pas d'hormones, il n'y a rien engraissé, c'est de la viande super saine, que ce soit les poissons ou le chevreuil ou l'orignal. Fait que oui, de plus en plus, ça augmente vraiment.
Oui, puis écoute, je parlais avec quelqu'un qui est allé pas plus tard que... C'est quoi, c'est l'année passée, je pense, sur l'île d'Anticosti. Tu parlais que c'était cher chasser, ouais. Fait qu'il y en a qui y vont de manière illégale. Hey, des voyages à Anticosti, puis t'as des zones privilégiées, la CEPAC qui débarque là, qui vérifie tes chevreuils, qui vérifie tes orignaux.
Ouais.
Hey, ça peut être dans le 20-30 000 piastres, puis même plus que ça quand tu veux t'offrir un voyage premium puis avoir tes bêtes et tout ça.
Ouais.
Ça peut être très, très cher, Steph.
Oui, puis il y a eu, depuis la COVID, là, ces endroits-là, OK, ces endroits premium-là, ils ont plus que triplé le prix. Fait que, tu sais, avant, tu sais, mettons, faire une chasse au chevreuil dans des endroits vraiment numéro un, là, où est-ce que tu vas aller, ça coûtait 5 000 4 000 à Star, c'est 8 000, 10 000. L'orignal, tu sais, un orignal, pour un pourvoyeur normal, ça vaut à peu près 5 000 $. Ça veut dire qu'à deux gars ou quatre gars, le forfait va vous coûter entre 5 et 6 000 Mais quand tu t'en vas dans des endroits où est-ce que il y a plus de orignaux et ton taux de succès va augmenter, ben là, ça va coûter 5 000, 6 000 par personne, ben souvent pour y aller. Puis des places où est-ce que c'est du 1 pour 1, un orignal, un chasseur, parce qu'au Québec, c'est 1 pour 2, mais 1 pour 1, ben là, on parle de 18, 20, 25 000 pour pouvoir aller récolter des endroits où est-ce qu'il y en a comme ça. Mais on est chanceux, hein? Ces places-là, c'est réservé à l'élite. Mais au Québec, on a encore accès à bien des places qu'on peut chasser dans ce qu'on appelle dans le freeland, dans le libre. Puis le taux de succès, il est quand même pas pire. Si tu réussis à bien aménager, bien les signes, puis tu le quittes, tu vas quand même bien t'en sortir. Mais tu as raison de dire que dans les places élites, ça n'a même pas de bon sens. Écoute, même le saumon, là, je m'étais informé au printemps pour aller dans le Grand Nord, pour aller faire les grandes rivières. Puis, il n'y a plus grand-chose en bas de 12 000, 13 000 piastres pour 5 jours de pêche. Puis là, tu n'as pas ton billet d'avion là-dessus. Là, t'sais. Fait que, non, c'est rendu. Il y a certains endroits où est-ce que quand il y a de l'abondance, comme, mettons, le Grand Nord pour le saumon, l'île Anticosti, comme tu parles, le chevreuil, le Yukon pour le orignal, puis plein d'autres places, c'est complètement disjoncté le prix maintenant qui demande pour aller chasser là.
Il y a quelqu'un sur le texto qui demande, OK, c'est pas moi, mais il y a quelqu'un sur le texto qui demande, j'ai vu quelqu'un qui fait fumer de la barbotte du fleuve. Est-ce que ça se mange?
Oui, puis la question est bonne aussi. Est-ce qu'il y a de plus en plus de poissons, de bébites, d'espèces qui se mangeaient pas avant, du moins qui n'étaient pas chassés, pêchés, qui maintenant, vu justement l'inflation et tout ça, qu'il y en a, ils disent qu'on va prendre une bouchée.
Oui, bien écoute, tous les poissons se mangent, OK? Ça dépend à quel endroit puis la température de l'eau aussi. Par exemple, la barbotte, c'est un poisson qui est excellent à manger. OK? Sauf que plus que tu vas le manger tard en saison où est-ce que l'eau se réchauffe, bien là, il y a des parasites qui vont venir se mettre dans la viande. Parce que quand nous autres, avec l'hiver, l'eau vient froide, les parasites vont décéder. Fait que c'est là qu'il faut vérifier comment est-ce qu'on va le manger puis comment est-ce que c'est. Si la viande, elle est cuite, les parasites, ils disparaissent. Ils cuisent avec ça, puis ça fait juste plus de protéines. J'en ai appelé quand je dis ça à ma blonde, elle n'aime pas ça quand je dis ça. Mais tu sais, il n'y a pas de danger quand la viande, elle est bien cuite. Mais de l'autre côté, ben c'est de là, il y en a beaucoup qui disent « Ah, moi, on m'a mangé de la truite en sushi, ces affaires-là. » C'est pas conseillé. C'est mieux de soit la faire geler. Il faut la faire geler au-dessus de moins 20 degrés pendant un bout de temps. Mais tu sais... faut penser que plus que l'eau réchauffe, plus qu'il y a des parasites, puis c'est là qu'il faut faire attention parce qu'on ne veut pas devenir malade non plus. Mais à part de ça, tous les poissons se mangent, tu sais, puis les immigrants qui arrivent au Québec sont tout le temps stupéfaits parce que, tu sais, nous autres, il y a des poissons qu'on ne mange pas. Mettons, la carpe, on ne mange pas ça. Mais les Européens, eux autres, puis les personnes qui viennent de la Chine, eux autres, ils traitent bien raide sur la carpe. Puis il y en a, c'est de l'abondance pour nous autres. Fait que ces poissons-là, dans ce temps-là, sont plus pêchés par ces personnes-là, ouais.
On te demande, Steph, le bar rayé au goût, c'est-tu un bon poisson? C'est ça, j'avais entendu dire que c'était un goût
particulier quand même. C'est un poisson qui goûte un... C'est un poisson de chair blanche, premièrement. Puis il y a beaucoup de sang dans la viande. Fait qu'il faut enlever le gras, le sang là, qu'il y a dans la viande là, quand on fait un filet. Par rapport à ça, oui, c'est excellent. Moi, je l'aime beaucoup en croquettes. Tu sais, je vais me faire des cubes de croquettes dans le chapelure puis sauter dans le beurre, là, c'est excellent. Mais tu sais, c'est une chair blanche, là, floconneuse un petit peu pâteuse. C'est pas clean comme le doré ou comme la perche haute, mais c'est excellent à manger. Effectivement, c'est très, très, très bon. C'est pour ça qu'il est exterminé, hein. Les gens le trouvaient tellement bon, facile à attraper, que, ils en ont abusé complètement pour enlever la ressource. Là, ben, comme je vous disais, là, il était réintroduit, puis là, on en a pas mal.
Hey, tu m'avais envoyé un sujet la semaine passée, puis je me suis dit qu'il faut absolument qu'on prenne un deux pour jaser de ça concernant les cinq êtres vivants qui causent le plus de décès chez l'être humain. Parce que là, on va dire Caroline doit être un lion, des trucs dans le même. Mais des fois, on peut rester un peu surpris.
Le numéro 1, numéro 2, c'est. Je pensais jamais ça. En fait, le numéro 1, c'est les moustiques, OK, les maringouins. Ouais. Je sais pas si c'est l'article en avant tout, je pense que c'est 700 000 personnes par année qui se font contaminer par une piqûre de moustique. Puis le moustique, lui, va amener une maladie. C'est ça, hein, je pense? Fait que ça va amener une maladie. Fait que cette maladie-là va faire que ça tue les personnes. Mais le numéro 2, ça, je m'attendais pas à ça, pas en tout. Le numéro 2 qui tue le plus d'humains à travers la planète, c'est l'être humain.
Ah ben...
On est la deuxième cause qui tue le plus, comme un maringouin ou comme un prédateur, ben on est le numéro 2 dans l'échelle de ça, par les homicides, par tout ce qui peut arriver. Ben l'être humain est son propre ennemi, on va dire ça. C'est, je pense que c'est 400 000 personnes, hein? Si je me souviens d'un chiffre, là, c'est 400 000 morts par année que l'être humain se cause à travers lui-même là, là-dedans. Puis les trois autres, il va falloir que tu m'aides, je me souviens pas tout. Il y avait des serpents.
T'as le serpent qui est en troisième position. Puis évidemment, nous autres, c'est pas un problème avec les couleuvres, là, mais quand on parle de régions comme l'Océanie, l'Asie, etc., tu peux tomber dans des espèces pas pire venimeuses. Là. Fait que t'as le serpent qui est en troisième position. Après ça, t'as en quatrième position, celle-là est bien surprenante. Les pitous, Steph! Les pitous!
Ben, oui, c'est vrai!
Les pitous, ça tue!
C'est vrai, les chiens, exactement. Dans les top 5 d'animaux meurtriers qui vont tuer des êtres humains, les chiens font partie de ça. Fait que on pense pas ça, mais même si on pense que c'est notre meilleur ami, ben de l'autre bord, ça peut arriver que. Puis il y en a tellement, hein, y a tellement de chiens sur la planète. Fait que les chiens errants, qu'on va penser les chiens sauvages aussi dans bien des secteurs.
Des fois, c'est capoté, hein. T'en as dans certains pays, le Mexique et tout ça, les gens qui font des voyages de type resort. Camille nous parlait, notre chroniqueuse voyage, parlait de la Samana la semaine dernière. Souvent, tu peux avoir un 7-8 chiens qui te suit par en arrière, puis tu sais pas, tu sais, ils portent des codages dans
Québec,
ces chiens-là qui te sautent dessus, puis.
Ouais, puis faut pas aller bien loin, là. Même au Québec, là, dernièrement, je pense que c'est l'année passée, il y a eu 4-5 personnes qui se sont fait tuer par des chiens dans les réserves, pas dans les réserves, mais dans les villes du Nord, dans le Grand Nord. Puis il a fallu qu'ils envoient des escouades, puis ça a été un abattage massif de plusieurs chiens qu'il y avait dans les villages, là, en haut de Coudjouac, là, ces places-là. Là. Mais il y avait eu quelques morts là-dedans. Là. Fait qu'ils avaient décidé de faire le ménage. Puis souvent, c'est à cause de ça. C'est les chiens qui laissent... Tu sais, il y a beaucoup de chiens de traîneau. Ils les laissent s'accoupler entre eux autres. Les chiens, ben là, ça popule, puis ils les laissent aller. Puis là, ben, à un moment donné, ben, ils reviennent dans les villages, ils ont faim. Fait que, puis c'est tout le temps la même affaire, hein. 90%, c'est tout le temps les enfants qui passent, qui se font ramasser en premier, là. C'est tout le temps.
Je sais pas si t'as vu la plus récente. La personne n'est pas morte, mais une partie de lui est morte, c'est-à-dire ses parties génitales. Le gars, il était à Montréal. Je sais pas si dans quel coin. C'est dans le coin du plateau, je me souviens plus. Mais c'est peut-être 3 semaines, cette nouvelle-là est sortie. Et out of nowhere, de nulle part, il y a un berger allemand qui sort, toi, puis il pensait que le maître était pas trop loin. Mais il a dû se pousser de chez eux, j'en sais trop rien.
On sait pas s'ils l'ont.
On n'a pas eu de nouvelles de ça, exact, parce que le chien s'est sauvé, le gars était à terre, il perdait du sang, il s'est fait arracher le bout du gland, littéralement. Là, c'est ce qui était mentionné dans la nouvelle. Puis après ça, le maître, ils l'ont jamais retrouvé non plus. Fait que j'imagine que si le maître était pas trop loin, il a vu ce qui se passait, il a peut-être dû sacrer son camp et jamais aller rechercher son chien, parce que là, tu peux être dans le trou, pas pire. Mais ça peut être le problème de ça. T'sais, tu parlais du phénomène au Nord, mais il y a beaucoup de maîtres ici au Québec qui sacent comme dans l'an 40 le chien. Ils lèvent pas sur le sens du monde, fait que ça fait des espèces un peu dangereuses.
Exactement. Puis, tu sais, moi, je le dis tout le temps, hein? Un chien, là, c'est la même affaire qu'un arme à feu. Là. Tu ne sais jamais quand est-ce que la gâchette va se partir puis que le chien va virer sur l'autre bord, puis peu importe la race de chien. Moi, où est-ce que je vire tout le temps fou, là, c'est quand il y a des petits-enfants puis qu'il y a des chiens à travers eux autres puis que je vois les petits-enfants s'approcher des chiens. Je te le dis, je suis pas capable. Les maîtres, souvent, ils me trouvent complètement débile. Mais je me mets tout le temps entre le petit puis le chien, puis je veux pas. Puis tu sais, imagine, pauvre petit pète, tu sais, un petit enfant de 2-3 ans, ils ont la tête à la même hauteur que le visage du chien. Là, le cou, il est facile à prendre. Fait que tu sais, même si tu viens me dire, moi j'en ai un chien, tu sais, mon chien c'était Labrador, il est fin, il a jamais levé les crocs, il a jamais rien arrivé, mais my God, je te le dis, quand il y a des enfants dans la maison, Le gros, c'est dans jamais. Sa cage. Ah, hey, tu ne sais jamais le déclic dans sa tête puis qu'il va arriver de quoi. Je dis tout le temps ça. Hein. C'est la même affaire que si tu prendrais une arme à feu, tu la mettrais sur le comptoir avec une balle dedans puis tu ne sais jamais quand quelqu'un va prendre l'arme qui ne sait pas comment, qui va toucher à la gâchette puis que le coup va partir. Un chien, c'est la même affaire. Il faut des tout fois, le temps se méfier de ça.
Des fois, Steph, c'est même pas pour mal faire. Là. Moi, j'ai un Golden Retriever à la maison. Mais c'est parce qu'il lève la patte. La tête est grosse comme rien, il peut l'écraser, ça prend pas grand-chose. Oui. Même, moi, on me dit tout le temps, ben Golden, c'est un chien de famille, hein, ça fait un soin de les enfants. Oui, je comprends, mais le chien, ça reste un chien, à un moment donné, il faut pas que tu penses. Parce que moi, je vois des gens qui ont des chiens à la maison, puis on parle de gros pitous, là, j'en connais que des huskies, etc., qui laissent les enfants jouer parce que la maison est divisée, que la cuisine donne pas accès au salon. Les enfants jouent avec le husky, il est gentil, le chien, il n'y a pas de trouble. Pendant qu'ils font un vaisselle, puis ils voient même pas ce qui se passe dans le salon. Qu'est-ce que c'est ça?
Hey, l'enfant peut vouloir prendre un jouet du chien pour jouer avec, puis là, le chien, hey, protection de ressources, vouloir défendre son... Tu sais, on ne sait pas, là. Puis moi, au parc, récemment, une petite fille, là, toute petite, là, peut-être 3 ans, qui s'approchait tout le temps de nous autres. Puis là, je disais non, non. Puis là, je voyais bien que la mère faisait rien. Puis j'étais comme, mais voyons, je ne sais pas, moi, comment mon chien peut réagir, là. Tu sais, à l'ombre d'avoir un petit enfant en avant de lui, puis ça le dérange. Il n'est pas malin, mais on ne le sait pas. Et puis, le truc, là, du doigt dans le derrière, c'est vrai, ça. C'est vrai, c'est pour calmer. Non, mais je l'ai vu sur une vidéo, ça fonctionne.
Ben, c'est parce que c'est la dernière place quand tu te bouges que tu t'attaques, tu vas avoir de quoi.
Ça saisit.
Même, je suis pas mal sûr que ça marche avec des êtres humains, là.
Mais est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles pour vrai, mettons, là, qu'on est dans une situation incontrôlée, là?
Oui, absolument.
Tu le conseilles.
C'est vrai que ça fonctionne.
Doigt dans
le derrière. Ça fonctionne à 100%. Ouais. Yes. Ben, tu sais, d'être capable d'ouvrir la bouche, mais tu sais jamais quand est-ce qu'il va revenir. Mais, tu sais, s'il accroche puis il est complètement, c'est... C'est pas par la bouche, c'est par l'autre bord. Fait que oui, let's go. Puis ça les mélange, je vous le dis. Là. Moi aussi, j'ai vu. Je l'ai jamais essayé, mais je l'ai vu dans tellement de vidéos. Puis je m'étais dit, my God, quel bon truc s'il arrive de quoi. Puis t'es mal pris, vraiment. Ouais, c'est exactement ça.
Exact, c'est la chose à faire. Puis écoute, on va prendre le temps de le plugger avant de se laisser. Steph, t'as ton podcast On Jase, puis on peut s'abonner à ça. Comment ça fonctionne pour les gens qui s'intéresseraient à plus de Stéphane Monnette? Parce qu'on a tellement de textos qui nous disent, Steph est donc bien intéressant.
C'est gentil. Ben, en fait, là, c'est drôle, là, tu me parles de ça, parce qu'on a dépassé les 2000 émissions là, qu'on fait du podcast. On
2000.
En fait un à tous les jours. 2000, wow. On est à 2000. À matin, on est à 2103 podcasts qu'on fait à tous les jours sur les situations qui arrivent. Parce qu'on est tout le temps sur le terrain. Comme là, si vous allez voir mon podcast, je suis sur la Matapédia. Fait que tous les jours, je fais des petits rapports de qu'est-ce qui se passe à Matapédia. Je raconte des histoires là, sur les fosses, parce que ça fait longtemps. Je viens ici depuis mon jeune âge. Fait que, oui, ben pis c'est simple. Vous allez juste aller faire le tour sur n'importe quel de mes réseaux sociaux. Puis le podcast, il est là tous les jours. Fait que vous pouvez aller le consulter, aller voir. Puis on a aussi une plateforme privée que là, sur celle-là, ben, quand on veut parler d'armes à feu, quand on veut parler de sujets un petit peu plus crunchy, ben vous devez être abonné à la plateforme onjase.net. Puis là, ben là c'est plus tranquille, c'est estival, mais l'hiver, là, on se donne pas mal. Les dimanches soirs, on fait pas mal de podcasts privés, puis on parle d'armes à feu, on parle de sujets inusités. On a bien du plaisir à faire ça. La communauté, elle est incroyable. Hein? Les gens, ils sont vraiment cool avec nous autres. Fait que merci d'en parler, mais juste sur mes réseaux sociaux, n'importe quel, Instagram, Facebook, YouTube, on est partout.
Puis en terminant, on me pose la question, c'est-tu pas nécessairement évident, des fois avec les flags, avec les armes à feu, puis tout ça, juste de parler de ça, c'est-tu moins pire que ça l'a déjà été? Parce qu'on se parlait de ça cet hiver, évidemment, avec le projet de loi et tout. Ben là, on dirait qu'aussitôt que t'en parles un peu, des fois, les réseaux sociaux, les méthodes de ce monde bloquaient ça direct.
On est barré automatique.
Ouais,
on
c'est
peut
ça,
plus,
encore,
on peut plus en parler quasiment. En fait, ce qui arrive, c'est que tu peux en écouter, puis tu peux en partager si ça vient ailleurs que du Canada. Fait que, mettons, t'es abonné à, mettons, un site d'armes à feu, Beretta.com, par exemple, sur Beretta Facebook. Tu peux aller voir les armes que tu vois là-dessus. Tu peux les partager. Puis même des fois, tes partages, tu te fais flaguer puis te bats ton compte. Mais nous autres, de venir mettre des informations là-dessus, on se fait flaguer tout de suite. C'est la même affaire que pour les nouvelles. Là. N'importe quel site de nouvelles, si tu le mets sur Facebook, tu te fais... c'est tout de suite enlevé, c'est tout de suite barré, ben on vit la même affaire avec les armes à feu.
Ouais, c'est complètement fou. Ben écoute, Steph, merci beaucoup de ton temps, puis on va essayer de se rejaser la semaine prochaine, ça t'adonne toujours un plaisir.
Ouais, la semaine prochaine, je vais être à la maison, ben je vais être dans mes vacances, fait que ça va être plus relax, là.
Parfait, let's go. Fait que bonne fin de semaine, on s'en reparle sans faute. Salut, Steph.
Hey, merci. Salut tout le monde.
Bye-bye. Salut, ciao. Vous écoutez le retour de Radio X. Jordan, Mel et Louis, on fait une pause. On revient. Bougez pas.
En direct du Festival d'été de Québec. Le retour de Radio X. Radio X.